Culture sans frontières, Anna Kuchta.
Dimanche dernier, s'est achevée la 33e édition de l'école d'été de cinéma d'Uherské Hradiště, suite et fin donc cette semaine de la série d'entretiens réalisés sur place avec deux spécialistes tchèques du cinéma. Avec la critique de cinéma Teresa Bradečková, habituée de l'école depuis les années 70, nous évoquerons le temps où l'école en était encore à ses balbutiements ou encore la difficile production de films dans le Caucase. Mais tout de suite, c'est avec une touche un tout petit peu plus légère que nous commençons cette rubrique culturelle avec David Tcheniak qui nous apprendra ce qu'il se passe quand un Spoutnik tombe dans un poulailler brésilien.
Donc chaque année, quand il y a un pays invité, on essaye de faire une sélection de telle manière qu'elle puisse montrer toute la diversité de la cinématographie depuis les débuts jusqu'à nos jours. Alors on a essayé de sélectionner les films les plus importants à partir de l'époque du cinéma muet, en passant par les films du genre qu'on appelle chanchadas des années 50, jusqu'à Cinéma Novo, les années 70 et après l'essor des années 90.
Vous évoquiez les chanchadas. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, est-ce que vous pourriez un petit peu détailler de quoi il s'agit?
Alors, chanchadas, c'est un genre typiquement brésilien. C'est des films qui se sont d'abord inspirés au théâtre populaire et sont devenus une espèce de parodie en général. Qui était très très populaire, très à la mode des années 50, 60, mais qui existe, d'après certains historiens du cinéma, depuis 1900 déjà, jusqu'en 1960-70. Mais les chanchadas les plus célèbres qu'on montre, c'est les parodies des films hollywoodiens, des grands films historiques ou des westerns hollywoodiens. Dans la sélection, il n'y a que trois chanchadas. Les plus célèbres. Ce qui est intéressant, ce qui peut être intéressant aussi pour notre public, c'est Chanchada. C'est un film qui s'appelle Matar ou Correr, alors tuer ou fuir, qui raconte une histoire de Spoutnik soviétique qui tombe dans un poulailler d'une famille pauvre qui croit faire une fortune avec ce Spoutnik. Mais il y a les agents russes et américains qui viennent au Brésil pour récupérer Spoutnik, mais aussi il y a les Français. Et l'agent français, c'est Brigitte Bardot, qui est envoyée au Brésil, mais bien sûr Brigitte Bardot jouée par une actrice brésilienne très célèbre à l'époque.
Alors après les chanchadas, quelles sont les autres vagues, disons, ou tendances du cinéma? J'avais lu un autre nom que je n'ai pas retenu. Udi Grudi, j'ai lu, et Cinema Novo.
Le mouvement le plus important qui a fait le plus connaître le cinéma brésilien, c'est Cinema Novo, sans doute. Alors on présente déjà presque l'intégrale des films de Glauber Rocha, le plus connu, très connu en France, en Espagne, ami de Godard, Antonioni. Et Udi Grudi, en fait, c'est le mot qui signifie underground au Brésil, mais c'est un peu le mot déformé, disons. Et ça, c'était une vague qui apparaît au Brésil juste à la fin de l'époque de Cinema Novo, qui essaye de faire le frère de Cinema Novo. Alors, c'est des films de plein de sexe, de violence. Et les films brésiliens de ce mouvement, disons, sont des films où il n'y a pas de morale, où tout est mélangé, il n'y a pas vraiment une histoire très claire.
Qu'en est-il alors du cinéma brésilien actuel? Est-ce que vous avez aussi des films sélectionnés qui sont récents, disons, et quels sont par exemple les thèmes abordés? Est-ce qu'on pourrait dire que est-il des thèmes comme les minorités sociales ou les minorités ethniques qui sont abordés?
Le problème, c'est que il y a beaucoup de films programmés dans le cadre de l'Ethnie Film Escola de notre festival. Alors, on est quand même limité. Alors, j'ai dû vraiment faire un choix assez concret. J'ai pas trop fait attention au thème même, mais plutôt à l'importance du film même. Alors, s'il a eu l'Oscar, s'il a eu beaucoup de succès commercial, par exemple, alors on a choisi. Mais vous avez tout à fait raison que les thèmes les plus abordés, c'est les problèmes sociaux au Brésil, c'est la réflexion de l'histoire, mais c'est aussi les Indiens. On a des invités, en fait, réalisateur aussi un Indien, M. Krenak, qui qui montre les films qui traitent ce problème des Indiens, leur condition de vie au Brésil, comment le reste de la société les accepte ou ne les accepte pas, quels sont les problèmes culturels, la disparition de leur langue, de leur tradition, etc.
Teresa Bredečková est écrivain et critique de cinéma, notamment dans l'hebdomadaire de référence Respect. Invitée de l'école de cinéma, elle a présenté les films du Caucase projetés cette année. On l'écoute tout de suite.
Moi, je suis une des plus anciennes participantes, comme je viens ici, mais pas ici, mais dans les autres villes de Tchéquie depuis 1972, quand l'école d'été a commencé. Mais le point, c'était jamais d'évaluer si quelque chose était meilleur que l'année dernière, ou s'il y avait plus de films, ou plus de spectateurs, ou plus de chaleur, parce que justement, c'est un festival qu'on pourrait appeler un anti-establishment festival, où justement la question qui est le premier et s'il y a le plus de quelque chose n'est pas tellement importante.
Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de comment c'était autrefois, disons surtout avant la Révolution? Je suppose que l'organisation, la manière dont ça se déroulait était complètement différente.
L'esprit original de ce festival est causé par le fait que c'était jamais vraiment un festival, parce que originalement, après 69, c'est-à-dire déjà après l'occupation russe, ce qui restait, il n'y avait pas beaucoup de choses dans le domaine de culture, mais c'était le plan pour développer les clubs de cinéma, c'est-à-dire les salles d'art, qui n'existaient pas avant. Mais ce n'était pas seulement en Tchécoslovaquie, qui existait partout dans l'Europe. Et on a fait ce réseau, comme c'était rien contre le régime, personne n'a protesté, et pour apprendre aux directeurs de ces petits centres de ciné-clubs qu'est-ce qu'ils peuvent actuellement projetés à leurs spectateurs dans les petites villes de Bohême ou de la Slovaquie. On organisait des séminaires où on projetait les films qui étaient dans la cinémathèque et qui étaient disponibles. Alors, ces gens-là venaient pour voir les films, c'était une offre. Mais comme il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses à faire à cette époque-là, tous les gens qui travaillaient avant la culture, tous les intellectuels étaient vraiment dans une situation très compliquée, cherche des points pour se rencontrer. Et ça, c'était très attirant. Donc, ces gens venaient dans une petite ville de Bohème, Písek, pour voir le film et pour parler avec des autres. Et moi, je trouvais ça très beau parce qu'il y avait une salle ou deux salles maximum. C'est-à-dire que tout le monde, on était 300, peut-être 400 plus tard, tout le monde regardait le même film. Je sais pas, 4 films par jour. Et dans les restaurants, on parlait vraiment de ces films. Il y avait des films contemporains. Par exemple, le cinéma polonais était absolument formidable à l'époque. On apprenait, moi j'avais 17 ans, on apprenait vraiment à comprendre le cinéma et à comprendre le monde aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement disparu, parce que maintenant, l'école cinématographique de l'été, c'est tellement grand que tout le monde regarde les autres films. C'est atomisé comme tout aujourd'hui.
En même temps, je discutais avec Madame Luz Vigo, qui est donc présente, et elle me disait qu'elle était agréablement surprise par le nombre de jeunes en fait qui viennent à l'école d'été. Que c'est un festival, ou en tout cas que l'école d'été attire énormément les jeunes, et que c'est plutôt bon signe en fait.
Mais c'est fait pour les jeunes, et c'est une légende qu'ils regardent que les blockbusters. Ils consomment l'offre. L'offre qui est plus proche, donc c'est souvent les blockbusters. Si on les montre quelque chose d'autre, ils le regardent. Quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas ce genre de cinéma américain, pas ici, donc on regardait d'autres choses. Et puis, ce qui est très bien, c'était une idée à directeur Jiří Králík il y a 10 ans. Je crois qu'il faut aussi organiser des concerts, des présentations, etc. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de jeunes qui sont venus pas pour regarder les films, mais pour un concert de rock. Et puisqu'ils sont déjà là, ils regardent les films. Et ça commence souvent comme ça.
Pour revenir à la production justement de films dans le Caucase, puisqu'il y a cette section, donc le film caucasien, que dimanche On a vu un film qui s'appelait Tbilisi Tbilisi que vous avez présenté. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu l'histoire de ce film, ou en tout cas de ce réalisateur?
Justement, c'est un film qui est en même temps très poétique et en même temps presque documentaire sur la réalité de Géorgie à l'époque de Shevardnadze et d'aujourd'hui aussi, parce que pas beaucoup de choses a changé dans la vie quotidienne. Et l'auteur de film, Levan Zakharishvili, qui est mort l'année dernière, était vraiment un enfant prodigue de sa génération. Tbilisi Tbilisi, c'est un film qui a été terminé l'année dernière, qui était à Cannes, quand un de ses réalisateurs, qui a fait le tour du monde, mais son auteur était déjà, qui était en même temps producteur, était déjà trop éloigné du monde de business de l'Ouest et incapable de communiquer. Donc, ce film a resté sous le lit de son fils à Tbilisi et n'a été jamais distribué. Ce réalisateur était confronté depuis son enfance avec la réalité très dure de Géorgie. Il y avait le grand-père de ce réalisateur qui était exécuté par les bolcheviks. Son père a été envoyé dans les camps. Et lui, il a finalement essayé d'étudier le cinéma en Géorgie et plus tard chez Andrei Tarkovsky à Moscou. Et ce n'était seulement après la séparation de Géorgie en 90 qu'il a pu tourner son premier long métrage, qui était immédiatement accepté à Cannes, très apprécié. Mais après, c'était l'époque de la guerre en Abkhazie. Et toute la génération de ce garçon, Levan Zakharishvili, c'était les gens qui sont allés en guerre et qui vraiment les gens et qui ont été blessés très souvent. Donc c'était aussi son cas. C'était les gens qui se battaient contre l'armée rouge, contre la séparation de cette partie de l'Abkhazie. Et pratiquement depuis ce temps-là, ça lui a prenait 14 ans de terminer son deuxième film, Tbilisi Tbilisi. Il est mort très peu après. Et moi, comme j'ai travaillé avec, j'ai eu la chance de travailler avec lui, de lui aider à terminer ce film Tbilisi Tbilisi. Alors on s'est souvent parlé, on était obligés de se parler en russe, ce qui était très pénible pour nous deux, mais je me suis rendu compte que c'est une question, comment vous expliquez à vous le mot liberté? Parce que pour lui, comme pour beaucoup des gens de Caucase, liberté, c'est-à-dire liberté de mon état, de ma patrie, liberté de ma culture. C'est-à-dire ils sont capables vraiment de se battre pour des causes qui sont absolument inexplicables pour moi, parce que pour moi, liberté, c'est d'être moi-même. Cette région qui est une telle richesse culturelle, à mon avis, souffrira jusqu'au moment quand ils accepteront le fait que la liberté est une chose assez individualiste et personnelle.
Voilà, c'est la fin de notre rubrique culturelle. Le mois de juillet était très cinématographique entre le festival Carlo Vivari et l'école de cinéma d'Oerske Hradiště. Mais de la semaine prochaine, je vous promets, on changera de sujet. Merci à toute l'équipe de production pour la préparation et la mise en onde. À la semaine prochaine et bon vent.